article jamais publié, j'ai toujours un grand plaisir à citer cet article, jamais publié, fortement distribué avec Papanicolaou et Varadhan sur l'homogénéisation d'équations d'Hamilton-Jacobi. Je suis très fier de cet article, d'une part parce qu'il n'a pas été publié et que le système de publication est quand même devenu une machine infernale qui ne sert pas à la dissémination des idées scientifiques mais uniquement à l'évaluation, c'est-à-dire à construire des listes de publications. Personne ne les a revues. De toute façon, l'information, elle est distribuée par des serveurs d'archives, par des préprints, par la circulation des idées. La publication ne sert à rien si ce n'est à faire de l'évaluation quantitative, c'est-à-dire avoir des listes de publications avec des revues de rang A, des indices quantitatifs qui n'ont strictement aucun sens, comme l'indice hémorroïde, l'indice H, comme la préparation, etc. etc. Donc, tout ceci est un système qui est devenu fou, avec une pression. Nos collègues biologistes j'en profite pour pousser un coup de gueule, parce que là, j'en ai tellement marre de toutes ces conneries. Nos amis biologistes, ils ont toujours besoin de sous, on le sait. Mais vous savez aussi pourquoi ils ont toujours besoin de sous, c'est que pour publier un article, il faut payer. D'accord ? Alors, et c'est pas, c'est, on est en train de parler en milliers de dollars pour pouvoir publier un article. Donc évidemment, si vous avez des chercheurs qui publient, ben, il faut déjà beaucoup de sous pour pouvoir publier. Alors donc, il y a une pression d'un certain nombre de crocodiles dans le milieu de l'édition pour que effectivement ça se transforme en maths. Ça apparaît aussi en maths, ce qui, à mon avis, va entraîner une véritable révolution. Donc peut-être ça, on se dira, mais peut-être au fond, les revues ne servent plus à rien. Donc finalement, j'en viens peut-être à souhaiter que les éditeurs continuent à mettre la pression là-dessus, parce que peut-être ça forcera à se poser les questions, les bonnes questions, c'est à quoi ça sert. Pression financière. Alors, la France est là toujours à la pointe de l'innovation, puisqu'on a quand même eu un accord qui a été passé il n'y a pas très longtemps entre les grands éditeurs et l'État français, qui paye grassement une première fois les éditeurs pour une certaine mise à disposition dans les bibliothèques, que personne ne va voir d'ailleurs, des revues. L'idée, ça serait de faire payer deux fois l'État français, qui est bien parti pour le faire, c'est déjà le cas en biologie, les subventions publiques pour les labos de recherche qui payent les éditeurs, et puis l'État qui paye l'éditeur pour que les revues soient dans les bibliothèques. Et personne ne dit rien. Bon. Donc c'est absolument aberrant et scandaleux. En particulier de mettre l'argent public et vraiment jeté par les fenêtres. Donc je suis absolument furieux. Et je suis d'autant plus furieux qu'apparemment Elsevier est en train de négocier sur les vieux comptes rendus, qui sont un truc assez historique et qui est des articles du monde entier, y compris de gens qui sont dans des centres de recherche dans des pays où les moyens économiques ne sont pas ceux de la France. Y aurait une information sans que les mathématiciens soient consultés, les comptes rendus deviendraient payants pour les auteurs. Si ça se confirme, ça va être une émeute à l'académie. Alors, j'ai vu passer des mails où déjà, et je comprends très bien les jeunes chercheurs en disant ces vieux gâteux de l'académie, voilà ce qu'ils font. Bon, ça m'a pas fait très plaisir la partie vieux gâteux, mais je ne me vois pas tout à fait comme ça, mais enfin bon, le regard des autres est peut-être un peu différent. C'est vrai que j'y vais pas souvent à l'académie. Mais bon, mais j'ai vérifié avec des gens qui sont plus assidus que moi, personne n'est au courant. Donc s'il y a des choses qui se trament, j'en profite pour pousser cette gueulante et je sais que c'est enregistré, parce que franchement, c'est absolument en contradiction complète avec l'éthique de la recherche publique. Et puis un principe d'égalité et d'accès aux revues entre différents pays. Je veux dire, honnêtement, c'est pas pour moi que payer des revues, j'ai les fonds nécessaires. Je pense à des jeunes chercheurs et je pense surtout à tous les pays où les conditions de travail sont déjà difficiles. C'est absolument scandaleux. Bon, ça va mieux. Donc, je suis très fier que cet article avec Papanicolaou et Varadhan n'ait jamais été publié, et ce qui n'a pas empêché d'avoir un impact absolument non négligeable, ce qui prouve bien que les revues, déjà à l'époque, ne servaient à rien, et d'être abondamment citées. Je ne sais pas comment mon propre indice hémorroïde se débarrasse, se gère cette question-là. C'est-à-dire un article qui est abondamment cité, est-ce qu'il compte, mais non publié dans une revue, est-ce que ça compte dans l'indice hémorroïde? Je ne sais pas. L'indice hémorroïde, c'est quand même un truc, il faut être tordu pour inventer des choses comme ça. C'est le plus grand nombre N. D'ailleurs, il faut être... j'ai toujours du mal à le définir. C'est le plus grand N tel que N de vos articles ont été cités par au moins N auteurs. D'accord? Alors, ça doit être un matheux qui a inventé ça, hein, parce que pour être aussi tordu que ça, je vois pas quoi... ça peut être qu'un matheux pour faire un bazar comme ça. Bon. Alors, donc... le nombre... Mais malgré ça, les gens s'en servent. Alors, là où c'est un peu vicieux, c'est que ces indices quantitatifs, sur une personne isolément, n'ont absolument aucun sens. Si on moyenne sur une fac ou sur un gros département, toutes les aberrations individuelles ont tendance un peu à s'estomper, et là, ça peut donner une vague indication. Donc c'est du bon usage des indices. Donc celui-là, c'est quand même le... je l'aime. Alors en plus, c'est des indices payants, enfin, si vous voulez consulter, enfin, c'est du racket, c'est monstrueux. Toute cette histoire, le système est devenu fou, et en fait le système est devenu fou parce qu'il ne passe pas à l'échelle. Dans les années, j'étais pas né quand même, il y a 80 ans, il y avait 4 profs à la Sorbonne, 4 profs à Heidelberg, et fondamentalement, on n'a pas changé le mode de fonctionnement depuis ce temps-là. On a simplement multiplié par 100 le nombre de chercheurs qui travaillent dans notre discipline, et le système, il ne marche plus. C'est tout. Et c'est quand même assez naturel de se dire qu'un système qui marchait il y a 80 ans, vu les évolutions de la société, il a de bonnes chances de ne plus marcher aujourd'hui. Bon. Mais ce genre d'évidence et les conséquences qu'on doit en tirer pour faire autre chose, s'organiser autrement, etc., ça commence un peu à pointer en Europe. Moi, j'ai déjà fait des propositions assez révolutionnaires, et finalement, c'est en Belgique que j'ai trouvé un écho. Bref, j'arrête mon coup de gueule. Ça m'a pas mis en avant, c'est ça. Alors, donc.